Bonjour à chacun d'entre vous. Bienvenue aussi à vous qui nous visitez ce matin. Et nous avons Lucien, Monica, Yann et Maxime qui sont venus spécialement pour notre fête de Noël et ce dimanche du Québec, de Trois-Rivières au Québec. Non, c'est pas tout à fait spécialement pour ce culte, hein, mais on est réjouis de les avoir aussi avec nous. Eh bien, ce matin, j'aimerais continuer le message que j'avais déjà apporté il y a environ un mois sur ce qui caractérise nos églises de type évangélique. Alors, l'évangélisme, c'est un courant qui traverse les églises, surtout les églises protestantes. D'ailleurs, on appelle, surtout en Allemagne, mais en France aussi, les églises luthériennes des églises évangéliques, Evangelische Kirche, ça c'est le terme officiel. Et il n'est pas rare de trouver, d'ailleurs à Villefranche, l'ancienne église réformée qui est aujourd'hui rue Aucourt et qui était à l'époque, je crois, rue de Tizy. Vous voyez encore sur le fronton, c'est gravé dans la pierre, église évangélique. Mais l'évangélisme, c'est un courant qui traverse différentes églises et qui a donné son nom aux églises de type évangélique, de notre type. Alors, qu'est-ce qui caractérise ces églises dont nous faisons partie par rapport à d'autres églises? Alors, nous avons vu qu'un sociologue anglais qui s'appelle Babington a trouvé qu'il y avait quatre identités, quatre caractéristiques qui définissaient le mouvement évangélique. La conversion, ce dont nous avons parlé la dernière fois, le biblicisme, dont nous parlerons maintenant, tout de suite, c'est-à-dire la Bible comme étant la parole de Dieu infaillible, on dit même inhérente, l'inhérence de la Bible. Mais ça, c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire, mais qui veut dire qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible, que tout est inspiré de Dieu, c'est infaillible. Ensuite, il y a le crucicentrisme, c'est-à-dire que l'accent est mis sur la croix de Jésus-Christ, la croix au centre du salut. Et puis, le dernier point, c'est l'engagement, le témoignage. Autrefois, dans les milieux baptistes, on disait que chaque baptiste devait être un missionnaire. C'est un baptiste allemand qui avait dit ça en allemand, chaque baptiste un missionnaire, chaque chrétien doit être un missionnaire. Alors voyons aujourd'hui ce qu'est le biblicisme, autrement dit la Bible, au centre de notre vie d'église, mais aussi de notre vie personnelle. Et je vous invite à lire quelques versets dans la deuxième épître à Timothée. Donc c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à son jeune collègue, mais en même temps on peut dire aussi disciple, Timothée, au chapitre 3. Un texte que nous connaissons bien, et au verset 16, vous savez, les 3.16, il y en a plusieurs dans la Bible, il y a Jean 3.16, mais il y a aussi 1 Jean 3.16, il y a aussi 2 Timothée 3.16. Donc nous allons lire, mais un petit peu en amont, au verset 14, 2 Timothée chapitre 3, verset 14, donc Paul donne ce conseil à son jeune disciple Timothée, qui était pasteur de l'église d'Éphèse, et à qui donc il s'adresse ici dans cet épître, dans cette lettre. « Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. » Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. L'écriture ici, ce n'est pas n'importe quelle écriture, ce n'est pas les lettres de l'alphabet ou n'importe quel livre, c'est les écrits sacrés dont il est question un petit peu plus haut. Et les écrits sacrés, qu'on appelle aussi l'écriture ou les écritures, c'est pour l'apôtre Paul l'Ancien Testament. Mais petit à petit, cela deviendra aussi le Nouveau Testament. Alors je crois qu'il y a trois exigences qui caractérisent ce biblicisme. Tout d'abord, interpréter la Bible. La Bible est un livre qui s'interprète, qui se comprend et qui s'interprète. Et en tant que chrétiens évangéliques, nous considérons que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Et comme le dit notre confession de foi, et je cite, elle est, alors je cite maintenant, c'est écrit en toutes lettres dans notre confession de foi, la parole que Dieu nous adresse. En elle réside la seule et infaillible règle de foi et de vie, ainsi que les critères fondamentaux pour éprouver toute doctrine, toute tradition, tout système religieux ou ecclésiastique et toute action chrétienne. La révélation qu'elle nous apporte ne saurait être modifiée ni complétée par aucune autre. Les catholiques lisent la Bible et l'interprètent. Les luthériens, les réformés lisent la Bible et l'interprètent. Les témoins de Jéhovah lisent la Bible et l'interprètent. Les chrétiens évangéliques, il y en a aussi de toutes sortes, lisent la Bible et l'interprètent. Comment s'y retrouver? Qui a raison? Comment retrouver la parole de Dieu dans cette interprétation? Car on ne peut pas faire autrement que de l'interpréter. J'espère que ce matin, vous êtes venus avec votre Bible. Je vois que certaines personnes ont leur Bible, leur propre Bible, leur Bible personnelle sur les genoux. Est-ce que vous êtes venus avec votre Bible? Pouvez-vous dire, c'est ma Bible, non pas celle que j'ai prise là-bas sur le rayon, mais ma Bible, celle qui m'appartient, celle que je lis, celle que je connais bien parce que, justement, je la fréquente régulièrement. C'est Boileau, l'écrivain Boileau, qui a dit que chaque protestant est un pape, la Bible à la main. Il voulait dire par là que chaque protestant, non seulement pouvait lire la Bible, mais devait aussi l'interpréter. Alors, est-ce que cela veut dire que chacun peut interpréter la Bible comme il veut? Car chacun en donne inévitablement sa propre interprétation. Je ne parle pas seulement ici des églises, mais je parle aussi des interprétations personnelles que nous pouvons donner. Est-ce que nous avons toujours raison? Est-ce qu'il suffit d'en donner sa propre interprétation pour dire que nous sommes dans le vrai? Alors non, bien sûr, chacun ne peut pas interpréter la Bible comme il veut. Dieu a confié l'interprétation de sa parole, et il le dit dans l'Épître aux Éphésiens, à des pasteurs et des docteurs, c'est-à-dire des enseignants, des docteurs de la parole. Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12, « C'est lui, le Seigneur, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service » et de l'édification du corps de Christ. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas l'interpréter nous-mêmes. Bien sûr, je crois que la Bible doit être lue personnellement, nous en dirons deux mots encore tout à l'heure. Nous devons lire la Bible et bien entendu l'interpréter dans notre vie personnelle. Mais il est important aussi que nous confrontions ces interprétations à ceux qui ont reçu du Seigneur le don de l'exprimer, de le donner au peuple de Dieu, les pasteurs et docteurs. Et sans doute aussi ont-ils étudié plus que les autres pour cela. Et l'apôtre Paul, dans ce domaine de l'interprétation, utilise une formule un peu difficile à comprendre. Dans nos anciennes Bibles, il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 6, « selon l'analogie de la foi ». Alors, l'analogie de la foi, c'est pas une parole qu'on utilise tous les jours dans notre vie. Hein. Est-ce que quand on dit bonjour à quelqu'un, on ne lui dit pas « comment vas-tu » Est-ce selon l'analogie de la foi? Non. Mais d'autres Bibles traduisent « en accord avec la foi ». Alors on pourrait dire « comment vas-tu ? Ta vie est-elle en accord avec la foi ? Marches-tu en accord avec ta propre foi ?» Voilà. Traduire la Bible « en accord avec la foi ». C'est-à-dire qu'il s'agit d'être en accord avec l'ensemble de la révélation biblique dans la Bible. La Bible forme un tout cohérent. Ce qui est vraiment extraordinaire avec la Bible, c'est pas seulement que des prophètes ont annoncé des siècles avant, de façon précise, nous l'avons vu hier soir, la venue de Jésus, mais tout cela se tient ensemble, tout cela est cohérent, tout cela permet aussi de dire, mais là, que dit tel autre texte, pour pouvoir avoir une idée globale, mais assez précise, de la révélation de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Peut-on prier le Saint-Esprit? C'est une question que certains chrétiens se posent. Quand on prie, généralement, on dit « Seigneur, Père, Dieu, mon Dieu, Jésus, Jésus-Christ, je te loue ». On peut dire « Seigneur, je te loue, Dieu, je te loue, Jésus, je te loue » ou « Jésus, je te prie ». Rarement, ou même pas du tout, j'entends quelqu'un dire « Saint-Esprit, je te prie, Saint-Esprit, je te demande de m'aider dans telle et telle situation ». Peut-on le faire? Alors, le chrétien évangélique, ou le pasteur et docteur, dira « Mais qu'en dit la Bible ?» Voilà, la référence suprême. « Qu'en dit la Bible ?» Alors, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est Dieu, au même titre que le Père et que le Fils. Donc, quand on prie Dieu, en fait, on prie le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hein ? Y a-t-il des exemples dans la Bible où on prie le Saint-Esprit ? Ben, à ma connaissance, il n'y en a qu'un seul. Un seul. Mais ça suffit pour légitimer la prière au Saint-Esprit. C'est dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, vous savez, ce célèbre passage de la vallée des ossements, où le prophète voit en vision une vallée pleine d'ossements humains desséchés. Et Dieu lui dit, « Crois-tu, Ézéchiel, que ces ossements peuvent revivre, reprendre vie, redonner des personnes ?» Et le prophète, assez embêté par cette question, répond au Seigneur, « Mais toi seul, tu le sais, toi seul, tu peux répondre à cette question. » Et Dieu lui dit, et je cite Ézéchiel 37, 9, « Parle à l'Esprit. Tu diras à l'Esprit, « Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Voilà une prière adressée à l'Esprit. Alors, compte tenu de ces données, le chrétien évangélique, le pasteur, encore une fois, va chercher dans la Bible la réponse à ces questions. Et il peut donc conclure qu'on peut s'adresser au Saint-Esprit dans sa prière. Alors, vous me direz, c'est peut-être pas important. On s'adresse à Dieu, évidemment. Mais ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. En revanche, peut-on prier ce que les catholiques appellent la Sainte Vierge, la Vierge Marie? Même principe appliqué, on ne prie jamais la Marie dans la Bible, et en plus c'est une créature humaine, on prie Dieu, mais pas une créature humaine, en tout cas comme Dieu, une personne décédée. Aucun texte de la Bible ne l'autorise. Et puis on ne prie pas les morts dans la Bible, on prie Dieu. Il s'agit donc de rechercher dans l'Écriture, dans les Écritures, c'est-à-dire dans la Bible, ce qui fait sa cohérence et ce qui détermine notre vie d'Église et notre vie personnelle. Et pour Jésus, la Bible, donc l'Ancien Testament, encore une fois, pour lui, resituons-le à son époque, était totalement inspiré de Dieu. Je cite Matthieu, chapitre 19, versets 4 et 5. C'est Jésus qui parle, et il s'adresse aux gens de son époque en leur disant « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ?» Bon, ça on le sait, nous avons été créés par Dieu. C'est ce que nous relate le début de la Bible, de la Genèse. Le Créateur a créé Adam et Ève. Mais Jésus continue en disant « Et qu'il dit ?» Donc, que le Créateur dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Jésus cite une parole de la Genèse, écrite par un homme, Moïse, pour ceux qui pensent que c'est Moïse qui a écrit les cinq premiers livres de la Bible. Mais Jésus ne dit pas « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et que Moïse a écrit ?» Non, mais qu'il dit, donc c'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui parle en citant une parole écrite par un homme. Nous avons cela exactement de la même façon dans Marc chapitre 7 versets 9 et 10 et dans Actes chapitre 4 verset 25 où une parole d'un homme, une parole humaine, mais une parole de l'Écriture est citée comme venant directement de Dieu, comme étant même prononcée de la part de Dieu. C'est donc Dieu qui parle directement par le texte biblique, comme s'il en était lui-même l'auteur. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Nous l'avons lu tout à l'heure, c'est ce que dit Paul à Timothée. Croire ce qui est écrit, c'est ce que dit Paul devant le gouverneur Félix. Acte 24, 14, Paul lui dit à ce gouverneur, en témoignant de sa foi, « Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. » C'est, je pense, une façon un peu synthétique de parler de tout l'Ancien Testament. « Je crois tout ce qui est écrit. » Croire ce qui est écrit veut dire que nous pouvons faire confiance à la Bible comme disant la vérité. C'est la vérité que Dieu nous transmet à travers sa parole. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faille tout prendre à la lettre. Et ça, c'est un autre problème ou une autre question d'interprétation. Quand Jésus dit « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. » Faut-il prendre cette parole à la lettre ? Si nous prenions cette parole à la lettre, je crois qu'on serait tous aveugles et on aurait tous besoin du texte en braille. Qui peut dire qu'il n'a jamais été tenté par son regard ou qu'il n'a jamais eu une occasion de chute par un regard ? Donc, bien sûr, Jésus ne veut pas dire qu'il faille prendre cela à la lettre, mais c'est une image très très forte pour nous mettre en garde. Et puis, il y a d'autres textes, alors qu'il faut prendre à la lettre. La naissance miraculeuse de Jésus, née d'une vierge, c'est pas possible à vue humaine, humainement parlant, scientifiquement. C'est un miracle de Dieu, mais Dieu est le Dieu des miracles, rien n'est impossible à Dieu. Alors, notre Dieu n'est pas limité, il est même le créateur de notre univers. Alors voilà, nous le prenons comme un miracle, comme une parole sûre et certaine, Jésus est bien né d'une vierge, sans l'intervention d'un homme. Mais quand Jésus dit, et tout à l'heure nous avons pris la scène, « Ceci est mon corps », les catholiques l'interprètent à la lettre, en disant qu'il y a transformation des éléments, puisque c'est bien le corps de Christ. Ceci est mon corps. Jésus a dit, ceci est mon corps. Ce que nous interprétons de façon symbolique. Mais nous disons, mais si c'était son corps, alors il a deux corps, parce qu'il était présent à ce moment-là. Encore aujourd'hui, il n'est plus là. En tout cas, visiblement. Mais quand il a fait cette première scène, il était présent, donc il avait deux corps, ou il s'est dédoublé. Enfin, vous voyez, voilà le genre de problème que peuvent se poser les théologiens. Mais c'est parfois nécessaire. Mais il y a d'autres situations dans la Bible où on peut hésiter. Le règne de 1000 ans, dans Apocalypse chapitre 20, est-ce vraiment un règne de 1000 ans sur terre, ou est-ce de façon symbolique qu'il faut le prendre comme faisant partie de l'histoire complète de l'Église? Interpréter la Bible selon l'analogie de la foi, en accord avec la foi. Et il y a des points qui sont peut-être secondaires et d'autres qui sont primordiaux. Lorsque les témoins de Jéhovah prennent certains textes qui sortent de leur contexte pour dire que Jésus n'est pas Dieu, nous voyons que dans le plateau de la balance, il y a beaucoup d'autres textes qui parlent de la divinité de Jésus. Donc on ne peut pas faire dire à la Bible n'importe quoi. Et cela arrive lorsqu'on tire un verset de son contexte. Je vais vous raconter une petite histoire que vous savez peut-être pour la plupart d'entre vous, parce que c'est pas la première fois que je la raconte. C'est quelqu'un qui a eu une étrange idée. Il voulait se pendre. Alors il ouvre sa Bible au hasard pour savoir si Dieu est d'accord. Et puis il tombe sur le verset qui lui dit « Et Judas alla se pendre ». Alors il est très troublé, il referme sa Bible. Il ouvre à nouveau et tombe sur le verset qui dit « Va et fais de même ». Alors, il prend une corde, il va se pendre, mais la corde casse. Alors, il ouvre à nouveau sa Bible et tombe sur le verset qui lui dit « Repens-toi ». Bon, vous voyez que c'est pas comme ça qu'il faut lire sa Bible. Mais il y a parfois des chrétiens qui, pour trouver la volonté de Dieu, ouvrent la Bible au hasard et espèrent y trouver une parole de Dieu pour eux. Bon, je ne dis pas que Dieu puisse pas le faire, ça peut arriver aussi, mais ce n'est pas la bonne méthode. Quand un problème se pose, une question, pas forcément un problème, une question de société ou d'éthique aussi, notre démarche de chrétien évangélique sera de voir ce qu'en dit la Bible, et d'en tirer ensuite les conclusions qui nous semblent conformes à la pensée de Dieu. Et la devise de notre association baptiste, c'est « Que dit l'Écriture ?» Voilà, un verset tiré de la Bible, de l'Épître aux Romains en l'occurrence. « Que dit l'Écriture ?» Que dit l'Écriture ? Alors donc, la Bible, un livre à interpréter selon, en accord avec la foi, selon l'analogie de la foi. Deuxièmement, la Bible, un livre à lire assidûment, c'est-à-dire régulièrement. Autrefois, le protestant était celui qui lisait la Bible. Peut-on dire aujourd'hui des évangéliques qu'il en est encore de même, qu'ils lisent la Bible ? J'espère que c'est vrai, et j'espère que c'est notre pratique aussi. Mais il faut le reconnaître, pour quelqu'un qui est nouveau, qui ne connaît pas la Bible, ou quelqu'un qui n'aime pas la lecture. Je rencontre aujourd'hui des gens qui ne lisent jamais, même pas le journal. Aujourd'hui, c'est la télé, c'est les emails, c'est les SMS, voilà, donc c'est le téléphone, voilà. Mais on n'aime pas lire, on ne lit pas. Il faut reconnaître que la Bible n'est pas facile à lire. Elle peut être même assez rébarbative. C'est déjà un gros livre. J'ai regardé dans ma propre Bible, pas forcément la vôtre, 1665 pages. De quoi décourager le premier venu qui essaie de se rendre compte de ce que c'est. Écrit en petits caractères serrés, disposé curieusement en deux colonnes par page. D'habitude, les livres, les romans, bon, les journaux, c'est vrai, c'est sur des colonnes, mais enfin, c'est sur des colonnes, voilà. Donc, avec un vocabulaire pas toujours facile à comprendre. On appelle ça dans notre jargon le patois de Canaan, hein, voilà, qui parle d'un passé lointain, de civilisation ancienne. Et pourtant, un livre qui devient un trésor pour qui sait découvrir ce qui en fait son originalité et sa beauté, sa fraîcheur. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce livre, vieux pour certains de ses textes de plusieurs millénaires, peut devenir un livre d'une fraîcheur extraordinaire pour nous qui sommes au XXIe siècle. Au XIIIe siècle, les Vaudois, je ne sais pas si vous avez entendu parler des Vaudois, pas les habitants du canton de Vaud de Suisse, hein, mais qui sont originaires d'un certain Pierre Valdo ou Valdès, qui est originaire de Lyon d'ailleurs. Hein. C'était des protestants avant l'heure et ils ont été terriblement persécutés. Alors ils se sont réfugiés dans les montagnes des Alpes, dans le Queyras, et également dans le Piémont italien pour échapper aux persécutions. C'était terrible, ils ont été décimés. Et ce n'est que Napoléon, enfin il a fallu qu'ils attendent l'époque de Napoléon, et au XIIe siècle, XIIIe siècle, il y avait déjà donc des Vaudois, Pierre Valdo est né au XIIe siècle. Il a fallu attendre un décret de Napoléon pour qu'il puisse être reconnu en tant que peuple d'une religion différente. Ils devaient donc se cacher pour évangéliser, mais ils avaient cette flamme au cœur. Leur but était de partager la parole de Dieu, la Bible. Et pour cela, ils se firent colporteurs. Ils devinrent des merciers, hein, ils vendaient du fil, etc., hein, des merciers ambulants. Et ils pénétraient dans les châteaux et les demeures des nobles avec cette parole. J'ai une perle brillante, disait-il, dont la clarté est telle qu'elle peut conduire jusqu'à Dieu. Cette perle brillante n'était autre que l'Évangile. Et suivant la réaction de son interlocuteur, le colporteur vaudois offrait alors une page manuscrite de la Bible. L'imprimerie n'existait pas encore. Hein. Une page, en tout cas, n'était pas développée. Manuscrite de la Bible que le missionnaire vaudois avait plusieurs fois recopiée de sa main. La Bible, la parole de Dieu était rare à cette époque. Elle existait, mais elle n'était pas mise entre toutes les mains. Et ils avaient, eux, ce désir de faire connaître la parole de Dieu. Alors, s'il fallait comparer la lecture personnelle de la Bible à un sport, je choisirais la course en montagne. Que d'efforts pour gravir les plus hauts sommets. Mais quelle vue magnifique, panoramique, une fois qu'on est arrivé. Tous les efforts sont largement récompensés. Il en est de même pour la Bible. Au début, on n'y comprend pas grand-chose. Puis petit à petit, tout s'éclaire. On y prend goût. On entre dans le monde de Dieu, vous rendez compte ? Le monde de Dieu, c'est comme si un coin du voile du ciel était soulevé et que nous pénétrions dans le monde éternel, glorieux de Dieu. Mais ce n'est jamais gagné d'avance. Il faut toujours un effort pour se mettre en route, toujours un effort pour ouvrir la Bible et pour la lire. Et vous qui n'aimez peut-être pas lire la Bible, qui ne lisez jamais, faites un effort. Entrez dans ce livre magnifique et vous serez largement récompensé. Il y a surtout parmi les gens du voyage, des gitans, des tziganes qui se sont convertis, sont passés par la conversion, sont devenus des chrétiens évangéliques. Pour la plupart, ils ne savaient pas lire parce qu'ils n'avaient jamais été à l'école. Mais à cause de la Bible, à cause de leur amour pour Dieu, cela a été pour eux l'occasion d'apprendre à lire. Ils se sont mis à lire la Bible et à connaître ainsi la parole de Dieu. La Bible répond aux questions que nous nous posons. D'où venons-nous? Pourquoi vivons-nous? Qu'est-ce que la mort? D'où vient le mal? Qui est Dieu? Qu'attend-il de nous? Important d'avoir des réponses à ces questions et des réponses justes. Il y a tant de réponses farfelues aujourd'hui. Alors nous vivons à une période privilégiée, vraiment extraordinaire. Il y a aujourd'hui une profusion de traductions et d'éditions de la Bible. Vous savez que la Bible est un livre traduit, de l'hébreu pour l'Ancien Testament, du grec pour le Nouveau Testament, donc on ne peut pas les lire dans la langue originale, à moins de connaître ces deux langues. Mais aujourd'hui, il y a plein de Bibles, plein d'éditions, avec des gros, des petits caractères, des notes, des cartes, des encadrés. J'ai même vu une Bible, une nouvelle édition, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, pour les femmes. Curieux. Alors j'attends une édition pour les hommes, mais apparemment c'est pas prévu, je sais pas. Hein, voilà, bon. Alors rassurez-vous, c'est le même texte biblique. Je crois qu'il y a juste des questions, enfin bon, voilà, peut-être un peu plus féminines, enfin qui concernent davantage les femmes. Enfin bon, vous irez voir vous-même. Moi, je me refuse d'aller voir ça. Mais enfin voilà, je ferme la parenthèse. Une chose est sûre. Nous avons besoin de lire la Bible comme on a besoin de manger. Il s'agit de nourrir notre vie spirituelle, de grandir en Christ et encore une fois, d'avoir des réponses justes, les réponses de Dieu sur nous-mêmes, sur lui, sur la vie après la mort, sur notre vie sur terre, etc. Et c'est vraiment, je crois, nous sommes des enfants gâtés. C'est vraiment un privilège extraordinaire d'avoir des Bibles bon marché, publicité dit la Bible pour le prix d'un café, 1,50 €. C'est vrai que c'est vraiment donné, c'est extraordinaire. Connaissez-vous une jeune fille, Mary Jones, une galloise, qui, en 1794, alors qu'elle avait 10 ans, sa maîtresse à l'école lui a fait lire un verset dans une Bible. Et la Bible était aussi rare à cette époque, surtout en gallois. Mais elle a eu tellement envie de connaître cette Bible qu'elle ne possédait pas, qu'elle ne pouvait pas s'acheter. Elle avait 10 ans. Que pendant 6 ans, elle a fait plein de petits travaux ménagers pour récolter quelques petits sous. Hein. Et à 16 ans, elle avait une somme d'argent qui lui semblait suffisante pour se procurer une Bible. Et elle avait entendu dire qu'il y avait un pasteur à 40 kilomètres de chez elle qui vendait des Bibles. Alors elle a fait 40 kilomètres à pied. Elle est allée au Pays de Galles voir ce pasteur. Et ce pasteur tout triste lui a dit « Mais je n'ai qu'une Bible et je l'ai réservée pour un ami ». Alors, il a vu ça, son énorme tristesse. Il a vu aussi l'effort qu'elle avait fait. Alors tout de suite, il a dit, mais attendez, j'ai une autre Bible en anglais. Parce que Mary Jones ne lisait pas l'anglais, elle lisait le gallois. Mais cet ami lit aussi l'anglais. Alors, je vais lui donner la Bible en anglaise et comme ça, je peux te vendre la Bible en gallois. Et elle est revenue chez elle, toute heureuse, avec cette Bible en gallois. Touchée par l'effort et le besoin de cette petite fille de 16 ans, ce pasteur en a parlé à un autre pasteur. Et cet autre pasteur a réuni à Londres 300 chrétiens. Et cette réunion a été à l'origine des sociétés bibliques, de la société biblique britannique d'abord et sociétés bibliques dans le monde, qui sont les maisons d'édition qui diffusent la Bible à travers le monde aujourd'hui, à cause d'une petite fille qui voulait absolument lire la Bible. Alors que nous avons plein de Bibles, et nous disons « Oh, mais je n'aime pas lire, oh, mais non, c'est un trop gros livre. » Cette perle précieuse qui nous conduit jusqu'à Dieu, nous la foulons aux pieds, nous la négligeons de cette façon. Quelle tristesse si c'est vraiment le cas. Aujourd'hui, le problème n'est pas d'obtenir la Bible, mais c'est de la lire. Alors faisons un effort pour lire la Bible qui n'est pas un livre comme les autres. Et demandons surtout à Dieu de nous aider. Peut-être que la clé est là. Si nous n'aimons pas lire la Bible, si ce livre, on n'est pas vraiment, on n'a pas trop envie de le lire, demandons à Dieu de nous aider. Et là, je cite le psaume 119, verset 18, où l'auteur du psaume, le psalmiste, dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Ouvre mes yeux, c'est une prière adressée à Dieu, au Saint-Esprit. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Sans l'aide du Saint-Esprit, il est clair que ce livre n'aura pas ce pourquoi il est destiné. Troisièmement, une Bible à vivre impérativement. S'il est important de lire la Bible, il est encore plus important de la digérer, de la vivre vraiment dans notre vie de tous les jours. La Bible est un livre qui se médite, qui se lit lentement comme on sirote un café. Hein ? Alors c'est vrai que certains textes se prêtent davantage plus à la méditation que d'autres textes. Mais on y rencontre d'abord Dieu, et tout au long de ces pages, nous apprenons à connaître Dieu. Dieu qui intervient dans la vie des hommes et qui peut intervenir dans notre vie. Alors il intervient chez des grands personnages comme Abraham, David, etc. Hein ? Mais il intervient aussi chez les gens ordinaires. Et nous rencontrons plein de gens ordinaires dans la Bible. Et nous voyons que Dieu est souvent en désaccord avec l'injustice des hommes. Regardez par exemple l'histoire de cet homme Naboth avec le roi Akab dans le livre des rois. Naboth était un petit paysan qui n'avait rien demandé à personne et dont le nom n'aurait pas été connu si le roi Akab n'avait pas fait quelque chose d'épouvantable. Akab a été jaloux de la vigne de Naboth et a dit à Naboth, eh bien, vends-moi ta vigne pour que, elle devienne mienne. Et Naboth a dit au roi, non, pas question, la loi de Dieu m'y interdit. On n'avait pas le droit à cette époque de vendre le bien qui devait rester dans les familles. Alors le roi Akab, sur l'instigation de sa femme Jézabel, a fomenté quelque chose d'horrible. Il a fait accuser Naboth de blasphème. Et il a fait tuer Naboth ainsi que ses fils. Et de ce fait, il a pris ensuite la vigne de Naboth. Mais Dieu n'était pas d'accord. Et Dieu a envoyé son prophète Élie pour lui dire qu'il était foncièrement contre et foncièrement complètement dégoûté par ce qui venait de se faire, indigné. Alors il lui annonce qu'il va perdre la vie à cause de cela. Il lui annonce son jugement. Et la lecture d'un tel texte doit nous faire réfléchir. Quel est ce Dieu qui défend l'innocent, le petit, devant un roi qui se croit tout-puissant? Quel est ce Dieu qui donne la terre aux petits et non pas comme cela se faisait dans les pays environnants, c'est-à-dire que les terres appartenaient au roi et les sujets du roi étaient simplement des ouvriers, des métayers. Alors moi qui suis un petit roi dans mon domaine, hein, vous êtes peut-être un petit roi dans votre profession, peut-être que vous êtes un petit roi dans votre famille, auprès de vos enfants, peut-être que vous êtes un petit roi, je ne sais pas, mais enfin on a tous un petit peu un domaine où on est un petit roi. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Je dois tenir compte de Dieu, de sa volonté, si je veux lui être agréable, en paix avec ma confiance, avec ma conscience. Voilà comment la Bible nous dit que Dieu veut transformer notre existence, nous rendre conformes à lui. Voilà comment la Bible transforme les vies. Eh bien, que Dieu nous aide à lire la Bible, à la méditer, à la vivre véritablement. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole, merci pour cette Bible, et pardon si nous la négligeons si souvent alors qu'elle est ta parole. Merci parce qu'elle nous parle aussi personnellement, mais qu'il faut un effort pour aller chercher la perle précieuse. Merci Seigneur parce que tu nous aimes tant que cette Bible nous dit que tu es venu pour nous sauver et pour nous donner la vie éternelle auprès de toi. Merci pour les certitudes qu'elle nous communique. Merci aussi parce qu'elle nous reprend, elle nous corrige. Aide-nous, alors que nous sommes si souvent prétentieux, orgueilleux, à être suffisamment humbles pour nous laisser diriger par toi. Bénis encore chaque personne d'entre nous et bénis ta parole dans nos cœurs. Amen. Amen.